Vous écoutez, on lit pour vous.
Laurence Côté-Fournier, Repenser la non-maternité. Un texte de Catherine Genet, paru le 17 mars 2025 dans Nouveau Projet. On peut être mère et tenir les nullipares en estime et vice-versa. En phase avec le commentaire de Nouveau Projet 29, articulé autour de la production littéraire des femmes sans enfants, cette conversation entre Laurence Côté-Fournier, mère de 3 enfants, et notre chef de pupitre numérique, mère de personne, vise à rapprocher ces 2 solitudes. Comme Claire Legendre, Catherine Gauthier, Valérie Forgue et les autres autrices dont tu parles dans ton essai, je suis une femme sans enfant. Souvent on me dit « Tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas d'enfant ». Je trouve toujours ça blessant, voire infantilisant. À l'inverse, quels sont les commentaires malheureux que te font les nullipares? Je dois être bien entouré parce que je n'ai pas de souvenir de remarques blessantes faites par des proches sans enfants. S'ils ou elles m'ont jugé, c'est avec une belle discrétion. Cela dit, je suis hanté par les propos de la nullipare que j'ai été. Celle qui évaluait, en papotant avec une amie, qu'une de nos connaissances était bien bizarre d'allaiter en public son enfant de 2 ans. J'ai sevré de peine et de misère ma fille à 3 ans, ou qui se promettait, devant un couple de parents devenus casaniers, d'être une mère dynamique et libérée, ce qui n'est pas arrivé. Autrefois, je jugeais les femmes à l'image de celles que je suis devenue. J'ai l'impression que les mères et les non-mères se jugent les unes les autres et qu'elles se livrent jusqu'à un certain point une espèce de guerre silencieuse. Ressens-tu cette tension-là? Et si oui, à quoi l'attribues-tu? Je suis entouré de nullipares et je ne sens pas tant une tension qu'une petite distance, celle creusée par les responsabilités différentes et le manque de temps pour entretenir les relations. Cette fameuse phrase que tu évoquais plus tôt, « Tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas d'enfant. » Je ne crois pas l'avoir déjà servi à quelqu'un, puisqu'effectivement, ça coupe court à tout échange, mais je la pense parfois. Pas parce que je crois que la personne à qui je m'adresse est atrophiée en matière d'empathie, mais parce qu'il me semble à peu près impossible de saisir concrètement toutes les implications du quotidien avec de jeunes enfants quand on n'en a pas dans sa vie. Cela dit, croire notre vie plus complexe que celle des autres, ou forcément incompréhensible, est universel et mène à une compétition sans fin. Les parents de 2 enfants disent aux parents d'enfants uniques qu'ils l'ont facile. Les parents d'ados préviennent les nouveaux parents désespérément en manque de sommeil que les vraies difficultés les attendent avec la puberté. Et je vois régulièrement des mamans sur les forums de parents de jumeaux ou jumelles et triplés écrire des publications outrées parce qu'elles ont croisé une femme qui a eu des grossesses rapprochées et qui a osé comparer leur vécu. Et pour revenir à la tension dont tu parlais, je ne pense pas qu'une nullipare ait déjà ressenti de la gratitude ou une sérénité nouvelle en se faisant dire « Tu penses que t'es fatigué? Imagine si tu avais des enfants. » Le plus grand piège est peut-être de s'imaginer être à la place d'autrui, mais sans vraiment l'écouter en se disant « Moi, si j'avais un enfant, j'organiserais pas ma vie autour de ses siestes. » Ou « Un enfant, ça la recentrerait tellement. » Qu'on soit nullipare ou mère, plus ou moins consciemment, on pense parfois comprendre la vie de l'autre personne mieux qu'elle-même, en adoptant une position surplombante d'où il est facile de juger ou de croire avoir la solution à ses problèmes. De mon côté, j'essaie de croire que ces petites distances creusées par la parentalité sont temporaires, et que l'essentiel des liens est intact, derrière tous les obstacles que la vie met entre nous. Pour ma part, une grosse partie du malaise vient du fait que des mères, parfois de purs inconnus, essaient de me convaincre de tomber enceinte. Que penses-tu de cette approche-là? Je suis mystifié par cette approche. Je comprends en partie le désir de voir la maternité se répandre autour de soi. Je suis heureuse lorsque j'apprends que des amis attendent un enfant, parce que ce lien est beau et que je suis contente de savoir que nous aurons cette expérience commune à partager. Mais le potentiel de regret est élevé si le désir d'enfant est tiède, et ses conséquences, sur la mère comme sur le bébé, me dissuadent de faire du prosélytisme. Et cette volonté de pousser une femme vers la reproduction revient encore à la vieille idée qu'elle ne réussit pleinement son expérience humaine qu'en devenant mère. Ce que démentent de manière spectaculaire plusieurs femmes nullipares dont les accomplissements me font envie. Dans Nouveau Projet 29, tu dis, je paraphrase, que le rush de la maternité te tient à l'égard des grandes questions existentielles et de la douleur qui vient avec. Mais qu'est-ce que la douceur et la joie des enfants ne règlent pas? Les parents qui remercient le ciel de la sérénité que leur enfant leur a apportée ne doivent pas être nombreux. Mes angoisses sont multiples et de tous ordres. Mon fils va-t-il passer son temps à enlever ses mitaines à moins 15 degrés Celsius dehors à la garderie? Que va-t-on faire si la civilisation s'écroule en 2040, comme ce fil Reddit sur les changements climatiques le prédit? Mais, depuis que je suis devenue mère, c'est vrai que mon anxiété est décentrée et qu'elle ne se fonde plus sur ma place floue dans l'univers, pour l'instant. Tandis que je suis épargné par les gros drames de la vie. L'absurdité de nos petites existences humaines reste en arrière-plan, plutôt que de m'accueillir le matin au réveil comme elle le faisait autrefois. Mes inquiétudes sont plus concrètes. À l'opposé des écrits présentés dans ton texte, quels seraient les meilleurs ouvrages sur la maternité, ceux qui déboulonnent des tabous ou sortent de l'ordinaire? Pendant la première année de vie de ma fille, j'ai lu en boucle des passages « The Life's Work » de Rachel Kosk, dont le ton caustique et noir me consolait de vivre une arrivée pour le moins névrosée dans la maternité. Les premiers mois après la naissance de mon enfant m'ont semblé être une incursion dans la folie, avec ses rituels compliqués autour du sommeil et les anxiétés qui nous possèdent jour et nuit. Kosk saisit tout à fait l'étrangeté de cette période, son intensité. Les livres de Fanny Britt, « Les tranchées et les retranchées », qui évoquent elles-mêmes Kosk, sont aussi restés des repères. J'ai relu récemment l'album multicolore de Louise Dupré dans un élan d'enthousiasme après la parution cet hiver de « L'homme au camion » et mon amour d'antan est revenu intact. C'est une analyse magnifique de la dynamique mère-fille. Oui, l'ouvrage parle d'abord de la mère de l'autrice et du deuil que celle-ci a vécu, mais il est évident que ces mots sont nourris par sa propre expérience de la maternité et de la place changeante que l'on joue dans la vie de nos enfants au fil du temps. Il y a énormément de livres sur la découverte du rôle de mère et les difficultés de la petite enfance, beaucoup moins sur ce que c'est être une mère d'enfants plus vieux, probablement parce qu'une pudeur s'installe, une réticence à s'approprier leur vie pour l'exposer. Blue Night de John Didion, dont l'intimité a sans doute été possible à cause de la mort de sa fille, s'ouvre là-dessus avec une mélancolie bouleversante. C'était Laurence Côté-Fournier, Repenser la non-maternité, un texte de Catherine Genet, paru le 17 mars 2025 dans Nouveau Projet.
Quoi faire? Livre. 6 suggestions de lecture de Benoît Mignot, paru le 20 avril 2025 dans le magazine Fugue. 1. Les cris et le silence des murs. Par Roman Herdé. H-E-R-D-E, accent aigu. Alexandre cherche à se réinventer et décide de quitter la France pour accepter un poste de chef cuisinier à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. Après tout, aucune attache amoureuse ne le retient et il ressent une certaine ivresse à l'idée de pouvoir repartir à zéro. C'est cependant l'ignominie des geôles saoudiennes qu'il affrontera quotidiennement jusqu'à l'arrivée d'un nouveau gardien-chef. Pourtant, tout semblait bien se dérouler. Il s'entend bien avec ses collègues de travail et il y a même rencontré Blake, un Australien au sang chaud, avec qui il partage ses nuits. Une simple petite lettre va cependant faire basculer la première pièce d'un jeu de dominos, ce qui conduira à son incarcération. Bien qu'il ait été appréhendé dans un lieu de drague pour hommes, et donc clairement coupable aux yeux de la loi, pourquoi est-il condamné à 10 années de cachot plutôt que d'être exilé en France, comme c'est normalement le cas? Et pourquoi invoque-t-on qu'il constitue une menace pour la sécurité de l'État? Au milieu de la violence inhérente à son statut de déviant, le moindre changement constitue le pire comme le meilleur des présages, et il accueille donc l'arrivée d'Atif, le nouveau gardien-chef, avec méfiance et crainte. Les événements semblent tout d'abord lui donner raison, puisque celui-ci ne cache pas le dégoût qu'Alexandre lui inspire. Au fil des semaines, la relation entre les deux hommes change cependant progressivement et amène Atif à revoir ses certitudes. Mais l'amour peut-il véritablement naître alors que l'existence d'Alexandre ne tient qu'à un fil? Un premier roman de Roman Herdé, qui traduit avec force la détresse propre à l'environnement carcéral, de même que la précarité, la misère et la confusion de ses occupants. Le cheminement identitaire d'Atif s'effectue progressivement et demeure ainsi vraisemblable, ce qui ne fait qu'accentuer le déchirement qu'il ressent puisqu'il est marié et père. Par ailleurs, à quel destin peuvent bien prétendre les deux hommes? À noter que le roman est également disponible en anglais sous le titre « Between the Walls, Shouts and Stillness ». 2. Dangerous Convenience Store, tome 2, 3, 4, édition Delcourt. Le premier tome nous présentait l'existence, on ne peut plus tranquille, de Yeo Ujun, dont les nuits, comme commis au dépanneur du quartier, n'étaient troublées que par les menaces de brutes locales. C'est au cours d'une attaque qu'il est secouru par Beom Gonwoo, un mastodonte qui réduit à néant son adversaire. Bien qu'il professe n'avoir aucun intérêt à l'endroit du jeune employé, les visites de Gonwoo se multiplient et Wee-jun constate qu'ils sont aussi voisins de palier. Toutefois, force est de constater que son client nocturne se trouve dans une situation financière plus qu'honorable. Alors, pourquoi réside-t-il dans un quartier aussi mal famé que le sien? Bien que l'aura de mystère entourant Gonwoo soit intimidante, et si ce n'est même alarmante, le jeune commis ne peut s'empêcher d'être attiré par celui-ci et se laisse éventuellement dominer par la puissance de son corps massif. Difficile cependant de nourrir une véritable relation, puisque Gonwoo ne s'ouvre qu'avec réticence et lui cache un élément essentiel. Il occupe un poste clé au sein de la mafia locale et est imbriqué dans des guerres intestines violentes. Les tomes 2 à 4 sont placés sous le signe d'une découverte des plaisirs de la chair, à travers laquelle Gonwoo déchaîne des pulsions charnelles jusqu'alors inassouvies, tout en constituant également un aveu de leurs sentiments respectifs. Mais Hui-Jun est incertain à l'idée de s'attacher à un homme qui lui apparaît émotionnellement inaccessible. De plus, il ignore que ce dernier tente de s'extirper du monde interlope afin de se réinventer et de le rejoindre. Par ailleurs, l'ex-copain hétéro, c'est compliqué, Hui-Jun recommence à graviter autour de lui, ce qui vient embrouiller ses sentiments. Quel destin attend les deux hommes? La question est cousue de fil blanc, mais le voyage n'en demeure pas moins très ragoûtant. Fidèle à l'esprit des boys love coréens, la série alterne entre un romantisme exacerbé, une dose de violence et une sexualité très graphique. À ce sujet, Gonwoo est doté d'un braquemort dont l'écurie de Tom of Finland n'aurait sans doute pas eu à rougir. Le tome 5, qui constitue la conclusion de la série, sera publié au printemps 2025. 3. Ce que nous avons perdu dans le feu, par Mariana Enriquez, récit, et Lucas Nine, dessin. Meurtres à répétition, violence et drogue sont le pain quotidien d'une Buenos Aires glauque et misérable dans laquelle chacun des personnages semble être englué à la recherche de réponses inaccessibles. Malgré tout, cette détresse est ici sublimée par le dessin de Lucas Nine. Adaptation graphique de 4 des nouvelles du recueil éponyme de Mariana Enriquez, la bande dessinée propose un étrange alliage visuel de peinture et de photographie qui ouvre sur un univers déformé, aux couleurs décaties, où la laideur de l'âme est révélée au détour de chaque recoin sombre. Qu'il s'agisse d'une jeune femme qui prend pitié d'un enfant esselé, d'un tueur en série qui décime des enfants dans l'indifférence des pouvoirs publics, d'une femme qui soupçonne son voisin des pires atrocités, ou de l'enquête entourant la mort d'un adolescent, le récit présente une misère et une violence dont chacun cherche à échapper. À noter que le premier récit met en scène Lala, la meilleure coiffeuse du quartier, qui a délaissé son passé d'homme uruguayen pour embrasser la réalité d'une femme brésilienne. On peut regretter, à l'instar des nouvelles dont la bande dessinée s'inspire, que chaque récit se conclut sur une fin ouverte, laissant planer un doute sur la réalité de ce qui nous a été présenté. Ne s'agirait-il pas simplement d'une affabulation? Une œuvre qui nous entraîne dans une folie perturbante, magnifiée par la beauté graphique des dessins de Lucas Nine, mais dont la lecture n'en commande pas moins d'avoir l'âme bien accrochée. Vous écoutez « Quoi faire ?» livre, 6 suggestions de lecture de Benoît Mignot, paru le 20 avril 2025 dans le magazine Fugue. 4. Les étoiles comme des petits poissons, par Casey Plett, édition Hamac. Alors que Wendy pleure la mort de sa grand-mère, qu'il a toujours soutenue à travers son processus de transition, elle reçoit un appel étrange qui vient bouleverser les certitudes qu'elle entretenait sur sa famille, plus particulièrement sur Henry, son grand-père. L'action se déroule à Winnipeg et s'ouvre sur deux éléments qui vont occuper un rôle fondamental tout au long du récit. Un groupe de femmes trans qui bambochent dans un bar et un appel téléphonique d'une femme mystérieuse, Anna, qui, à travers quelques mots, fait s'écrouler le château de cartes de la petite histoire familiale de Wendy. Vous devez avoir entendu des histoires à propos de Henry. Il était comme le fils de Ben. Ce qu'Anna ignore, c'est que Wendy était le fils de Ben et que, sans le réaliser, elle lui offre ainsi des clés de compréhension sur son insaisissable grand-père. La recherche de cette vérité cachée l'amène ainsi à plonger dans les racines de la culture mennonite, un mouvement chrétien conservateur dont elle est issue et qui a forgé son enfance et bridé son cheminement identitaire. Le procédé est ingénieux puisqu'il permet au lecteur, via les recherches de Wendy, de pénétrer au sein de son histoire personnelle, mais également de celle de sa communauté et d'en comprendre les intrications. Par ailleurs, au-delà de cette recherche orientée vers le passé, son groupe d'amis offre un regard avant tout porté vers le présent et le futur et sur la manière dont une femme trans s'y inscrit. Les échanges y sont riches et dynamiques, souvent à bâtons rompus, et explorent autant des questions triviales, souvent fort amusantes, qu'existentielles. C'est notamment le cas d'une réflexion autour du passage du temps qui diffère chez les personnes trans. Le décompte des années s'amorce-t-il à la naissance, à partir de la première affirmation de soi, de la prise d'hormones ou du changement d'état civil? L'une d'elles évoque même que les femmes trans vieillissent différemment de leur contrepartie, CIS, puisqu'elles meurent souvent avant l'heure. L'autrice, Casey Plett, met en scène des personnages à la fois profondément complexes et réalistes. Ainsi, bien que le roman regorge de scènes touchantes entre Wendy et son père, un accent est également mis sur l'absence et les beuveries de ce dernier, qui s'inscrivent clairement à la source des problèmes de sa fille. Le récit ne verse cependant jamais dans le misérabilisme, bien au contraire, même s'il prend parfois à la gorge. Ce serait par ailleurs un crime de ne pas souligner l'extraordinaire travail de traduction réalisé par Daniel Grenier, Pascal Rowe et Amélia Fizet, qui ont québécisé avec maestria le texte original anglais. 5. Ma vie au micro-ondes. Récit d'infortune culinaire par Simon Boulris, édition Cardinal. Paru en 1976, La cuisine micro-ondes de Johan Benoît a marqué le quotidien et l'imaginaire d'une bonne partie de la population québécoise. Lorsque Simon Boulris le découvre, l'ouvrage a cependant perdu de sa superbe et est même considéré comme un peu ringard. 50 ans plus tard, l'auteur nous présente une rencontre improbable entre le livre de recettes et le récit de sa vie. Son sous-titre, Récit d'infortune culinaire, n'est pas le fruit du hasard, puisque l'auteur se décrit lui-même comme le plus grand des béotiens dans une cuisine. Entre ses mains, le micro-ondes constitue presque une arme de destruction massive. N'empêche que l'électroménager a constitué son meilleur ami pendant toutes ses études et l'est encore aujourd'hui, en raison de la simplicité de son utilisation. Au risque de déplaire à certains et certaines, mais de plaire au plus grand nombre, ce nouvel opus constitue avant tout un prétexte pour relater plusieurs des grands et petits moments qui ont jalonné l'existence de l'auteur. Le titre est très clair. Ce n'est pas « La cuisine », mais « Ma vie » qui est apprêtée au micro-ondes. À l'instar du four, on a ainsi droit à une préparation rapide de nombreuses anecdotes. C'est avec ravissement que l'on découvre que l'ouvrage suit la table des matières de son référentiel de base. C'est ainsi que l'on retrouve un chapitre sur les meilleurs ustensiles à utiliser dans votre four, ainsi qu'un autre, sobrement intitulé « Viandes et volailles ». Chaque fois, le titre se veut un prétexte pour nous présenter des éléments en lien avec l'appareil, mais également l'occasion de partager un florilège d'anecdotes hilarantes ou dramatiques. La fiction est également au menu, puisqu'on y retrouve aussi de courts poèmes, ainsi que des scénettes où Jehan est ramené à la vie le temps d'échanger avec l'auteur. L'ouvrage se révèle un réel plaisir, naviguant avec adresse entre humour et confidence. C'est également une occasion en or de goûter à la plume de l'auteur, et je suis à court de références culinaires. 6. Radio Storm, tome 1 de 4, par Lee Sun Hui et Seo Kyung, édition Delcourt. Une épidémie décime la planète, réduisant les personnes infectées à des êtres sauvages contrôlés par une agressivité extrême. Le salut de l'humanité, son arme ultime, tient en des individus, des noyaux, dotés de pouvoirs dont certains sont susceptibles d'anéantir des cités entières. Le hic, c'est que l'intensité des pouvoirs ne se révèle que lorsque le noyau est réuni avec son émetteur. Dans cet univers dystopique, Sack se sent tout d'abord privilégié d'être accepté au sein d'une école, un institut gouvernemental de recherche où il peut échapper à la misère auquel le pays est réduit. Il devient cependant bien vite le bouc émissaire des autres élèves en raison de la qualité dérisoire de son noyau. Il est doté de la capacité de dégager un parfum d'herbe, mais également d'une différence plus profonde flairée par ses bourreaux, sa sexualité. Sous les conseils d'un professeur, il se résout à quitter l'école pour partir à la recherche de son émetteur et rencontrera ainsi Lima, un jeune homme stoïque marqué par une enfance d'enfant soldat. Ce dernier ne ressent tout d'abord que de la méfiance à l'endroit de ce compagnon d'infortune, puisque les noyaux sont à la fois admirés et craints en raison de leur imprévisibilité. Lima accepte sa présence à une condition. « T'es pas vraiment mon style, mais bon, un trou est un trou. » Contre toute attente, les deux hommes devront s'épauler afin de survivre au sein d'un monde où chaque tournant peut cacher une menace délétère. Alors qu'il croit avoir mis en œuvre la recherche de son émetteur, Sack ignore cependant qu'il est en fait suivi à distance par les scientifiques de l'école qui le manipulent dans l'ombre. Mais à quelle fin? Un boys love qui combine romantisme et univers post-apocalyptique où, pour le moment, l'essentiel de l'action se concentre sur le plan des échanges et de la recherche identitaire des deux héros. La parution du deuxième tome est prévue pour le printemps 2025. C'était « Quoi faire, livre » 6 suggestions de lecture de Benoît Mignot, paru le 20 avril 2025 dans le magazine Fugue.
Buchenwald, Les portes de l'enfer. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 19 avril 2025 dans Le Devoir. À Buchenwald, ce camp de concentration nazi libéré en avril 1945, quelque 56 000 déportés ont trouvé la mort sous l'effet de giclées de coups, de famine, de non-assistance médicale, d'expériences sordides, de pendaisons, de travaux forcés, d'épidémies et de sévices divers. Comment se libérer de l'enfer? À l'heure de l'avancée des soldats américains du général Patton, des prisonniers ont constitué une armée secrète. Ils sont prêts à bondir pour tenter de sauver leur peau et celle de leurs camarades. Ils contribuent d'abord à saboter comme ils peuvent la production qui s'opère sur place ou dans la nébuleuse du camp, notamment celle de composantes des nouvelles fusées V2, l'ancêtre des missiles balistiques. Georges Beauchemin a retracé avec minutie, à partir des archives de l'armée américaine et de témoignages, les heures de la libération du camp. Ancien haut fonctionnaire du gouvernement du Québec, fondateur du consortium Uranus, ce fin connaisseur de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vit désormais en France. Les nazis avaient l'intention de réduire en cendres Buchenwald, explique-t-il au bout du fil. Ce sont 6 000 soldats allemands qui, le 11 avril 1945, sont massés autour de Buchenwald pour réduire les lieux à néant. Les prisonniers sont entassés comme des sardines, les uns sur les autres, dans des lits de bois superposés. Ils vivent jusqu'à 7 par mètre carré. À l'heure où les SS s'apprêtaient à les liquider, des brigades de prisonniers se ruèrent sur les miradors. Georges Beauchemin a tissé un récit précis de l'histoire du camp dans le « Triomphe de l'entendement », publié en 2000. Il espère publier une nouvelle mouture de ce livre sous peu. En attendant, il vient de faire paraître à ce sujet, avec Dominique Durand, un article dans « Le Patriote résistant », un mensuel lancé en 1946 par les victimes de la déportation. En ce mois d'avril 1945, donc, la panique s'empare des nazis. Les chars des armées alliées approchent. Alors que les soldats américains attaquent, ce sont 715 insurgés mal armés, des Russes et des Français, qui vont surgir de l'ombre, depuis l'intérieur du camp. Ils attaquent ceux qui veulent leur perte en profitant d'un retournement de situation. Chaque petit groupe savait quel mirador attaquer. Ils ont foncé ensuite sur les casernes pour s'emparer des armes. Pris par surprise, le gros des SS fuit. Ce sont 78 d'entre eux qui sont faits prisonniers par les insurgés, lesquels s'étaient constitués, en prévision d'une action pareille, une sorte d'armada d'armes disparates. La majorité de ces captifs, décharnés et terrorisés, n'ont sans doute pas su exactement ce qui était à se produire. L'armée de Patton, rappelle Georges Beauchemin, avait d'abord reçu l'ordre d'ignorer le camp pour le laisser à la charge des fantassins qui suivaient. Par la suite, les responsables américains ont favorisé l'écriture d'une histoire qui concentre la responsabilité sur les soldats SS. En vérité, toute la population allemande était passive, tout en sachant très bien ce qui se passait en un lieu pareil. Des cadavres. Pour que la population connaisse hors de tout doute ce qui s'est joué derrière ces barbelés électrifiés, le commandement américain demande en tout cas que les notables de Weimar soient, le 16 avril, conduits dans l'enceinte du camp. Ce sont 1200 citoyens de la ville qui, dans les jours qui suivent, sont conduits à visiter le camp. On va aussi permettre aux médias et aux officiels américains d'y accéder. Buchenwald était un symbole pour Hitler, explique Georges Beauchemin. Il y avait là, au beau milieu du camp, un grand chêne qui était censé être celui où Goethe se reposait. À l'époque, pour les Allemands, Weimar était un symbole culturel plus important que Berlin. Hitler se l'était approprié. La ville de Weimar est aujourd'hui considérée comme un trésor du patrimoine mondial. Buchenwald, situé à 10 kilomètres à peine de Weimar, ouvre ses portes en 1937. Les cadavres sont d'abord réduits en cendres dans les crématoriums de cimetières. À compter de 1940, les soldats SS utilisent un four crématoire mobile. L'année suivante, deux fours crématoires permanents sont installés. Les fours fonctionnent 24 heures sur 24. Ces opérations en continu ne suffisent pas à évacuer les corps. En témoigne l'amoncellement d'environ 1500 cadavres retrouvés à la libération du camp en avril 1945. Même une fois libéré, le camp continue de produire des morts tant les êtres humains laissés sur place sont à bout de force. La vie après la barbarie. De l'expérience de Buchenwald, chacun connaît l'écriture ou la vie, le récit de Georges Semprun. Rescapé de Buchenwald, Semprun mettra un demi-siècle à retourner au fond de ses souvenirs, pour les remonter péniblement, à l'aide de sa plume, dans les consciences. Membre de la résistance en France, Semprun est arrêté par la Gestapo. Il ne tarde pas à être déporté dans ce camp. Le nouveau prisonnier connaît d'abord, comme tant d'autres, une période de quarantaine. Elle consiste en une mise à l'écart de quelques jours dans un petit camp attenant à l'ensemble principal. Là, on évalue les risques de propagation des maladies. Des vaccins expérimentaux contre diverses infections seront essayés sur des cobayes. Au cœur du camp, Georges Semprun va échanger bientôt avec le sinologue Henri Maspero, de même que le résistant Maurice Albouache. Léon Blum, ancien chef du gouvernement français du Front populaire, est gardé captif par les nazis à Buchenwald. Ses idées de gauche le condamnent aux yeux des nazis, comme sa volonté de résister au régime d'occupation de Vichy. Les nazis voient aussi en lui une possible monnaie d'échange. Détenu à part, Blum a vu la mort sous ses fenêtres. En 1947, à l'occasion d'un discours livré à New York, Blum livre ses souvenirs de Buchenwald. J'ai vu de mes yeux, comme dans les bas-reliefs égyptiens ou assyriens, la longue file des captifs attelés comme des bêtes de somme aux chariots chargés de pierres ou courbés sous les longues pièces de bois qui faisaient plier leurs épaules. Parmi les déportés de Buchenwald, on trouve deux futurs prix Nobel de littérature, Imre Kertész et Elie Wiesel. Ce dernier écrira ceci. « Jamais je n'oublierai cela, même si j'étais condamné à vivre aussi longtemps que Dieu lui-même. Jamais. » En 1946, un autre rescapé du camp, David Rousset, fait paraître « L'univers concentrationnaire ». Ce livre, véritable coup de tonnerre, va fortement marquer les consciences en posant des mots sur l'indicible horreur. Robert Antelme, lui aussi rescapé de Buchenwald, va relater pour sa part son expérience des camps de la mort dans l'espèce humaine. Au fronton du camp, les autorités nazies avaient fait inscrire les mots « Jedem das Sein », ce qu'on peut traduire par « Chacun reçoit ce qu'il mérite ». C'est à un prisonnier, l'architecte Franz Ehrlich, que les tortionnaires avaient demandé des esquisses des lettres utilisées pour ce leitmotiv du camp. Ehrlich utilise une typographie de style Bauhaus, tout en sachant bien que ce style est condamné par les nazis. Les responsables du camp ne se rendent pas compte qu'on leur fait de la sorte un pied de nez. Aujourd'hui, c'est l'histoire qui fait un pied de nez au monde, laisse entendre Georges Beauchemin, habité par les récits antifascistes de son beau-père, qui fut l'armurier, dit-il, des résistants terrés dans le camp de Buchenwald. Les gens ne se rendent pas bien compte, au Québec par exemple, de la menace d'une nouvelle guerre qui plane sur nous tous. En Europe, on en parle sans arrêt. L'extrême droite monte partout, en Autriche, en Hongrie, aux Pays-Bas, en France. Ce sont des mouvements qui servent de cinquième colonne à Vladimir Poutine. Et quand on voit les politiciens américains nous dire maintenant qu'il faut favoriser ces extrêmes droites, on voit à quel point on nous annonce des années fertiles. C'était Buchenwald, les portes de l'enfer, un texte de Jean-François Nadeau paru le 19 avril 2025 dans Le Devoir.
Place à la 19e piétonisation et à une nouvelle voie. Une chronique de Gabriel Rondy parue le 17 avril 2025 dans le magazine Fugue. Dès aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous écris ces lignes pour vous parler du village que j'aime, que je dirige et que j'ai à cœur de faire rayonner. Chaque mois, à travers cette chronique, je vous raconterai la vie du quartier, ses défis, ses beautés, ses projets, et je mettrai en valeur ses entreprises uniques. Une façon pour moi, Gabriel Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial, SDC, du village, de vous tendre la main et d'ouvrir la porte à tout ce qui fait battre le cœur du village. Et quoi de mieux pour débuter cette nouvelle prise de parole que de vous parler d'un moment fort de notre année, la 19e piétonnisation de la rue Sainte-Catherine-Est. Un été où le village devient un espace libre, festif, accueillant, vibrant, à l'image de nos communautés. En effet, dès le 16 mai 2025, la rue Sainte-Catherine redeviendra piétonne entre les rues Saint-Hubert et Papineau. Avec l'arrivée de la quarantaine de terrasses de nos membres, magnifiquement décorées de plantes colorées, je suis certaine que tout comme moi, vous respirerez à nouveau après l'hiver blanc, froid et long que nous venons de passer. Je dois d'entrée de jeu prendre un moment pour remercier nos partenaires, sans qui cette piétonnisation ne serait pas possible, tant au niveau financier que logistique. La Ville de Montréal, l'arrondissement de Ville-Marie et la Caisse des Jardins du quartier latin. La collaboration avec ces précieux partenaires est essentielle pour permettre la réalisation d'un projet aussi important. La SDC du village, c'est une toute petite équipe de 3 personnes formidables qui m'accompagnent, Gilles, Émilie et Éric. On a de la chance de pouvoir compter sur des partenaires aussi engagés pour réaliser nos projets. Le retour des troupes. Je sais que vous avez tous le cœur gros depuis que l'installation 18 nuances de gai de l'architecte paysagiste Claude Cormier a été décrochée pour une dernière fois à la fin de l'été 2019. L'artiste, qui nous a malheureusement quittés en 2023, souhaitait laisser sa place à une autre œuvre dans le village. Tout le monde était loin de se douter qu'une pandémie mondiale allait, quelques mois plus tard, paralyser le monde entier et laisser des marques importantes dans le village, autant au niveau social qu'économique. D'ici au réaménagement de la rue Sainte-Catherine-Est par la Ville de Montréal, la SDC du village travaille d'arrache-pied à concevoir des aménagements temporaires innovants et créatifs, surtout durant la piétonnisation estivale. Mais j'ai fait le choix d'y consacrer une plus petite portion de notre budget pour laisser une plus grande place à la programmation estivale, afin qu'elle soit plus riche, étendue et diversifiée. En 2024, grâce à un nouveau partenariat avec le Parc olympique, nous avons reçu un don de plusieurs bandes du stade, inutilisées en raison des travaux importants qui s'y déroulent. Avec notre architecte, le magicien et rêveur Jean Baudouin, nous avons créé les Troupes, un assemblage de 3 séries de 3 bandes du stade. Peint en rose, parce qu'ici tout est plus beau en rose, Les 35 troupes l'ont permis d'asseoir jusqu'à 9 personnes par station, offrant une pause bienvenue pour les aînés, les familles, les fêtards, fêtardes et les personnes marginalisées. Concevoir des aménagements pour le village, c'est réfléchir à des solutions pour permettre à tout le monde d'avoir une place dans le village, dans le respect et en toute sécurité. Les troupes seront bien sûr de retour cette année, de Saint-Hubert à Papineau, pour vous permettre un petit répit sous le chaud soleil de notre artère piétonne. Autre aspect qui vous est cher, l'horticulture. On le sait, la rue Sainte-Catherine est assez minéralisée. L'ajout de nos 160 bacs à fleurs permet de créer un jardin coloré linéaire qui fait du bien aux yeux et à la planète et que vous appréciez chaque année. Durant tout l'été, nos alliés du village, de notre formidable projet de réinsertion sociale, en partenariat avec la Maison du Père, s'affaireront à donner de l'amour à nos magnifiques plantes afin qu'elles se déploient au maximum. Ce projet, rendu possible grâce au soutien financier de l'arrondissement de Ville-Marie, est rapidement devenu une évidence dans le village. Vous saluez nos alliés, les remerciez pour leur travail et vous leur piquez une sympathique jasette quand vous les croisez. En plus de veiller à l'horticulture, chaque duo des alliés s'occupera aussi de ramasser les déchets dans l'espace public pour vous assurer une visite optimale. La SDC du village marquera à nouveau la rue en 2025 avec les couleurs de la diversité, pour rappeler à chaque visiteur, visiteuse, l'essence de ce quartier si important. On vous a bien vu sur Facebook et sur Instagram en 2024 mettre en valeur vos plus belles tenues sur notre magnifique ruban aux couleurs du drapeau. Alors pourquoi s'en priver cette année? Nous marquerons donc le territoire avec une fresque, qu'on vous laissera découvrir dès le 16 mai 2025. Je ne vais quand même pas tout vous dévoiler. Dans ma prochaine chronique, j'aurai l'occasion de vous partager toute la programmation qui se déroulera dans le village durant la piétonnisation. Mais je vous laisse quand même sur un avant-goût, notre week-end de lancement des festivités. Du 16 au 18 mai, on va célébrer en grand cette toute nouvelle édition de la piétonnisation. On le sait, ce sont les terrasses qui vous ont manqué le plus et que vous aurez très hâte de retrouver, entre amis, collègues de travail ou avec votre partenaire. Dès votre première bière ou spritz savourée, place aux festivités dans la rue avec une première vente-trottoir des membres de la SDC du village. Et le vendredi, qui de mieux pour nous dire que l'été est enfin arrivé que l'incomparable troupe d'À pied levé? Il n'y a que leur énergie contagieuse pour commencer l'été avec nous de la meilleure façon possible. Le 17 mai, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, nous ferons de la place dans la rue aux organismes qui desservent les communautés 2SLGBTQIA+. En fin d'après-midi, avec la Fondation Émergence, nous nous rassemblerons lors d'un événement festif et spécial. Et puis, place à la 3e édition du Grand Championnat national de drague de Montréal, près du Bourbon, où des équipes de drague s'affronteront pour remporter le convoité Grand Prix. Une compétition déjantée, comme seul le village sait en offrir. Le dimanche 18 mai, on vous fera vivre un karaoké en plein air où les classiques, les fausses notes et les prestations surprenantes s'entremêleront. Et puisque c'est un long week-end et que la plupart d'entre vous seraient en congé le lundi, eh bien une vingtaine d'établissements du village vous accueilleront pour une autre nocturne, lors de laquelle vous pourrez fêter jusqu'aux petites heures du matin dans une vingtaine d'établissements, de quoi marquer le début de l'été de la meilleure manière. Cet été, je vous invite à vous réapproprier le village, à l'habiter, à le célébrer, à en prendre soin. Ce quartier est le vôtre, que vous y viviez, y travailliez ou que vous y passiez simplement du bon temps. Ensemble, faisons de cette 19e piétonisation un moment de fierté collective, où le village rayonne de toute sa diversité, sa résilience et son amour. Je termine cette première chronique en vous rappelant ceci. Nos 255 membres, bars, restos, salles de spectacle, commerces et services, comptent sur vous. Ce sont elles et eux, nos commerçants, commerçantes, qui gardent le village vivant au quotidien par leur accueil chaleureux, leur créativité, leur résilience. Derrière chaque terrasse animée, chaque vitrine colorée, il y a des humains humaines passionnés qui choisissent, jour après jour, de faire battre le cœur du quartier. Cette piétonnisation, c'est aussi pour leur offrir un été vibrant et porteur d'espoir. Chaque occasion que vous avez, qu'elle soit spéciale, coquine ou courante, est une opportunité de témoigner aux commerçants, commerçantes engagées du village que leur présence est importante. Ça prend un village pour faire un village, et ça prend autant de villageois, villageoises pour dynamiser et faire vivre notre beau village. C'était « Place à la 19e piétonnisation et à une nouvelle voie », une chronique de Gabriel Rondy, parue le 17 avril 2025 dans le magazine Fugue.
Du cannabis plein les murs. Un texte de Marie-Laure Desgagnés, paru le 21 avril 2025 dans la presse. Il y a quelques années, un couple d'Américains cherchant à construire une maison à consommation énergétique nette zéro a sollicité le Québécois Anthony Néron. La demande des propriétaires, qu'il isole leur demeure de Cape Cod au Massachusetts au moyen d'un matériau écologique capable de résister aux aléas du climat maritime. Le béton de chanvre. Sans son expertise, leur projet n'aurait jamais abouti. L'artisan de Sherbrooke avait 18 ans lorsqu'il a découvert le potentiel de cette plante industrielle. Je me suis dit, moi, ça va être mon outil pour faire ce que je peux pour l'environnement. Mon intention, c'était vraiment d'avoir une solution pour la crise climatique. C'était en 2005. Depuis, avec son entreprise, du chanvre, il a participé à plus de 350 projets mettant en valeur le béton de chanvre ici et aux États-Unis. Des bâtiments commerciaux et des constructions résidentielles, y compris la conversion d'un vieux couvent en tour de condos. Sous espèce du cannabis très faible en THC, le chanvre est connu pour sa capacité à stocker de bonnes quantités de CO2 durant sa croissance. Matériau durable, il s'illustre aussi grâce à ses propriétés isolantes, tant du point de vue acoustique que thermique. Anthony Néron est convaincu qu'une utilisation plus répandue de cette plante pourrait diminuer de façon spectaculaire l'empreinte carbone de l'industrie de la construction et des bâtiments. À lui seul, le chauffage des immeubles représente près de 10 % des émissions de gaz à effet de serre, GES, au Québec, d'après le ministère de l'Environnement du Québec. Une meilleure isolation des édifices fait partie des solutions ciblées par le gouvernement pour diminuer l'empreinte carbone du patrimoine bâti, puisqu'elle réduit sa consommation d'énergie. Or, l'usage de matériaux ultra-transformés et la production de déchets doivent aussi être considérés lorsqu'on dresse le bilan environnemental d'un bâtiment. Tu ne peux pas décarboner la construction en continuant à utiliser la laine de roche, du plastique, des polythènes, des matériaux qui polluent la nappe phréatique et qui détruisent l'environnement, rappelle Anthony Néron. D'où l'intérêt de développer un matériau durable dont la transformation sera moins polluante et dont les résidus seront biodégradables. Ce défi, les plantes industrielles le relèvent avec brio. Dans tous les paramètres qu'on a étudiés en partenariat avec l'Université de Sherbrooke, résistance thermique, compression, absorption d'eau, notre béton de chanvre est plus performant que les matériaux conventionnels, poursuit-il. Ce nouvel isolant a aussi l'avantage, comme le bois, d'emprisonner du CO2 présent dans l'atmosphère. Le chanvre C'est un matériau qui capte du carbone quand il pousse. Le seul moyen que ce carbone-là, il retourne dans l'air, c'est soit que ça brûle, soit que ça se décompose. Et nous, avec le béton de chanvre, on fait un matériau qui résiste au feu puis à la décomposition, souligne l'artisan. Un savoir-faire d'ici et d'Europe. Le béton de chanvre a été créé en France au milieu des années 1980. Il faut dire que l'Europe occidentale a plusieurs années d'avance sur le Québec en matière d'utilisation de plantes industrielles dans la construction. J'ai appris avec des Européens qui étaient ici. J'ai fini par voyager en Europe pour apprendre, raconte Anthony Néron. L'expertise présente sur le vieux continent a aussi attiré Christiane Bérubé, directrice générale de Nature Fibre, une autre entreprise qui mise sur les vertus isolantes du chanvre. Notre idée, souligne Christiane Bérubé, c'était vraiment de pouvoir nous servir de la plante de chanvre industrielle, entre autres parce que toute cette plante se revalorise. Située à Val-des-Sources, anciennement Asbestos, au cœur de ce qui était autrefois la terre de l'amiante, son entreprise a créé un matelas isolant thermique à base de fibres de chanvre, conçu pour s'insérer entre les montants d'un bâtiment. Celui-ci remplace facilement la laine de verre, le fameux isolant rose précoupé qu'on retrouve sur la plupart des chantiers. Chaque année, le Canada importe des États-Unis de grandes quantités de ce matériau dont la fabrication entraîne une production importante de gaz à effet de serre. Pour Christiane Bérubé, l'émergence de matériaux écologiques est aussi une invitation à concevoir nos bâtiments autrement. On a construit pendant des années des bâtiments très hermétiques, puis on se rend compte que ça ne marche pas. Il y a toujours une infiltration quelque part. La femme d'affaires note que plusieurs architectes laissent donc les bâtiments respirer un peu plus pour améliorer leur durabilité. Le chanvre est capable de retenir l'humidité, puis de la relâcher par temps plus sec. C'est un manteau d'hiver pour affronter les aléas climatiques, en hiver, et même en été pendant les canicules, précise-t-elle. Une couverture performante qui pourrait marquer une petite révolution québécoise dans l'industrie du bâtiment en Amérique du Nord. C'était « Du cannabis plein les murs », un texte de Marie-Laure Desgagnés paru le 21 avril 2025 dans « La Presse ».